de Verlaine à Rimbaud, d'Aloysius Bertrand à Lautréamont, de Nerval en Baudelaire. Aujourd'hui, petite mythologie du poète qu'on appelle Maudit avec Jean-Luc Steinmetz et Stéphane Guégan.
La compagnie des poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h. Patti Smith, Ask the Angels, extrait de l'album Radio Ethiopia qu'elle dédia à Rimbaud en 76. Rimbaud, le plus beau de tous les mauvais anges, rappelez-vous, Jean-Luc Steinmetz, dans l'introduction de votre livre. Jean-Luc Steinmetz et Stéphane Guégan, bonjour, bienvenue à tous les deux.
Bonjour.
L'un signe la chair en fait en préambule parallèlement, cette petite merveille de livre d'artiste paru en 1900 et réédité aujourd'hui chez Azan et qui noue, disons, la verdeur des vers de Verlaine à la sanguine rose de Pierre Bonnard. Verlaine qui occupe évidemment une place de choix, c'est même par lui que tout commence, Jean-Luc Steinmetz, dans ses poètes qu'on appelle Maudit, qui paraît aujourd'hui aux éditions La Baconnière. Écho, du moins par le titre, à Verlaine et à son fameux texte « Les poètes maudits hein, » qui rassemblait en un même essai Rimbaud, Corbière et Mallarmé. Petite parenthèse d'ailleurs, qu'est-ce qui pour Verlaine permettait à Mallarmé de prétendre au titre de poète maudit en 1884 ? C'était maudit comme incompris ?
Oui, ben, il y a différents types de malédictions à propos de Corbière, Mallarmé et Rimbaud. De toute façon, deux étaient déjà morts et Mallarmé était peu connu et maltraité par la critique. Et autrement, chez Mallarmé, il n'y a pas une malédiction particulière, sinon qu'il est un peu rejeté, enfin considéré comme quelqu'un de bizarre, mais il y a déjà un ensemble de disciples qui vont venir vers lui. Voilà, donc le mot de malédiction a plusieurs une teneur multiple, n'est-ce pas ?
Bien sûr, bien sûr.
Remonter à l'origine de ce mythe, enfin de ce qui est devenu mythe.
On va en parler, évidemment.
À partir du XVIIIe siècle.
Alors, qu'est-ce qui, pour en rester à ces poètes maudits chez Verlaine, qu'est-ce qui liait ces trois-là ? Qu'est-ce qui fait le poète maudit pour Verlaine, en tout cas, pour qu'il aille jusqu'à se compter parmi eux, hein, d'ailleurs, dans la seconde édition de son essai ?
Vous savez, ce n'était pas le premier titre qu'il envisageait, et puis finalement, il en est venu à ce titre sans songer de façon évidente à Vigny, à qui l'on doit surtout l'idée du poète maudit. Mais étant donné la destinée de chacun des trois qu'il a rassemblés là, eh bien, le terme s'est imposé sans doute, sans faire intervenir d'ailleurs une notion religieuse. Mais évidemment, maintenant, il a une valeur tout à fait évidente et presque impérieuse pour chacun de nous, au point même que c'est une sorte de label esthétique qui empêche de voir exactement ce que ça peut recouvrir.
Alors, c'est précisément ce qu'on va voir dans l'ensemble de vos textes, Jean-Luc Steinmetz. Est-ce qu'on peut dater, alors vous l'avez évoqué très très rapidement, hein, je ne sais pas si on vous a entendu, mais vous avez parlé du XVIIIe siècle, à quel moment est-ce qu'on peut, disons, sourcer ce mythe, si tant est qu'on puisse parler de mythe, ce mythe qui est quand même au cœur de l'imaginaire littéraire moderne. C'est une notion forcément moderne ?
C'est une notion qui apparaît sous la plume de Vigny, qui dit expressément « Le poète a une malédiction sur sa vie et une bénédiction sur son nom ». Ce qui veut dire que l'existence a été malheureuse et souvent tragique. Et puis, en contrepoids, n'est-ce pas, eh bien, on voit la renommée qui lui advient. Alors, à ce moment-là, Vigny parle de poètes qui sont plus ou moins connus. Le poète anglais Chatterton, le poète français Gilbert, et puis Stello et Chénier. Chénier qui est le plus connu et qui est mort pendant la Révolution. L'idée de Vigny, d'ailleurs, est de montrer que ces trois poètes, à la destinée terrible, montrent la position peu reconnue et placée à la marge des poètes sous différents régimes. C'est ça son idée, sous différents régimes politiques.
Celle de Vigny, en tout cas. Pas forcément celle de Verlaine.
Eh bien, on s'aperçoit que tous les maudits dont on parle Verlaine sont des individus de la marge, n'est-ce pas ? Voilà, la marginalité est très souvent en rapport avec le caractère difficile de la vie et de l'existence de ces personnes. Ce qui donne lieu, d'ailleurs, à une écriture qui est forcément en dehors de la convention et de ce fait nouvelle, hein, par rapport à l'ensemble de ce qui se fait à son époque. De sorte que Corbière, Mallarmé et Rimbaud sont d'évidents exemples de l'exceptionnel, de la singularité. À ce nombre, d'ailleurs, à leur nombre, il ajoutera plus tard, dans un deuxième volume des Poètes maudits, lui-même, pauvre Lélian, qui est l'anagramme de Paul Verlaine, et puis une femme, Marceline Desbordes-Valmore, que tous appréciaient dans ses groupes, et Villiers dit l'Adam. Voilà pour faire à peu près le point sur la question.
Est-ce que ça voudrait dire que le poète maudit serait le poète idéal, hein ?
Ah, il n'y a pas de poète idéal, non. Ça, c'est une question. Non, ce sont des gens qui ont eu une certaine expérience de la vie, et cette expérience de la vie est passée aussi dans un langage et dans une transformation de la langue. Il est très, très certain que une destinée s'est formée là à la rencontre du corps et de l'esprit pour chacun de ces trois-là. Si on revient aux trois poètes maudits dont parle Verlaine. Ce que je veux dire, c'est que le titre de mon ouvrage, n'est-ce pas, regroupe un certain nombre de personnalités dont plusieurs ne sont pas évidemment considérées comme maudits. Mais je les ai inclus là, et le principe de l'ouvrage était plutôt de donner à voir sur une dizaine d'individus qui avaient eu une destinée malheureuse et qui nous retiennent par le caractère exceptionnel et singulier, je reprends ces mots, de leur écriture.
Donc finalement assez proche de ce qu'évoquait Verlaine. Vous aviez signé Jean-Luc Steinmetz il y a longtemps maintenant, un texte qui a fait date, hein, qu'on commente toujours, du poète malheureux au poète maudit, réflexion sur la constitution d'un mythe. Qu'est-ce qui se joue dans le passage de l'un à l'autre, du poète malheureux au poète maudit ?
Oh ben, vous savez, on arrive à une époque où le mécénat au XVIIIe siècle, le mécénat ne va plus exister. Et donc, les poètes ne vont plus être soutenus par quelques riches personnages que ce soit. Et donc, ils vont être obligés, ceux qui s'engagent complètement dans cette voie, de vivre de leur poésie, et cela mène très souvent vers la bohème et vers une condition très difficile à supporter, à vivre dans la société. Ça, c'est une question de société d'abord. Donc le terme d'infortuné arrive là. Mais évidemment, dans la fortune, il n'y a pas simplement que l'argent, il y a également le sort, le destin. et je crois quelque part à une destinée ou une destination qui se crée lorsque se forme une œuvre poétique. Et il est évident que pour ceux dont nous parlons, une destinée s'est formée à travers beaucoup d'obstacles et souvent des drames. Puisque nous parlons de Verlaine, nous connaissons son rapport conflictuel et malheureux avec Rimbaud, tragique avec Rimbaud.
Pourquoi est-ce que le 19e siècle a eu besoin ou aurait eu besoin particulièrement de ce mythe-là? Qu'est-ce qu'il venait nourrir, Jean-Luc Stalmette?
Oh, je ne sais pas s'il en a eu besoin, n'est-ce pas? On s'en est emparé au fur et à mesure d'une histoire qui est celle de la littérature et qui a mis en relief ses personnalités très singulières. Dans ce sens, Verlaine a une grande importance puisque il a donné une substance, il a trouvé le mot même pour désigner ce qu'on pourrait appeler un mythe. Hein. Enfin, il faut faire très attention avec ce mot, hein, qui est par exemple systématiquement appliqué à Rimbaud, alors qu'on ne parle pas d'un mythe de Verlaine, par exemple. Vous voyez ?
Pour quelle raison ?
Ah, pour quelle raison ? C'est que la vie de Verlaine est particulièrement connue. Il n'y a pas de lacune dans cette vie et dans celle de Rimbaud. Eh bien, vous savez très bien que le silence intervient à un moment et c'est quelqu'un qui tourne le dos à la littérature. Et pour quelle raison ? Ça n'est pas difficile à comprendre. On fait trop de phrases là-dessus. Et pour quelle raison ? C'est parce qu'il s'est aperçu que dans notre société, elle n'est pas efficiente. La poésie ne va pas pouvoir transformer l'homme comme il aurait voulu. C'est-à-dire que chez Rimbaud, il y a un geste qui n'est pas simplement idéologique, mais presque thaumaturgique, et qui voudrait, c'est-à-dire faire une espèce de miracle, changer la vie, transformer l'amour, et beaucoup d'autres formules qui ne sont pas simplement des formules pour lui, mais des slogans existentiels. Hein. Voilà pourquoi un mythe s'est formé autour de quelqu'un qui s'est séparé de la littérature et qui semble en même temps avoir atteint le sommet de ce qu'on appelle littérature. Mais vous savez ce que Verlaine a dit de son côté, et tout le reste est littérature. Verlaine est l'un des premiers à avoir jeté un soupçon sur la littérature. Et par exemple, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la belle poésie, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il y a de la belle poésie, et puis il peut y avoir une poésie efficace, ou même une poésie qui dépasse largement les limites de la signification, et qui est en voie d'un dépassement de ce que j'ai observé tout à fait à la fin de mon livre, L'impossible, cette partie d'une saison en enfer qui s'appelle L'impossible.
Et qui s'achève sur l'infortune, mais c'est une autre sorte d'infortune dont on va parler tout à l'heure.
C'est l'infortune, le double sens d'infortune, absence d'argent, difficulté d'argent et destinée, sort.
Cette notion, pour en finir avec elle, Stéphane Guégan, cette notion de poète maudit, est-ce que c'est une notion contagieuse ? Qu'est-ce qu'il en est du peintre ? Je vous pose la question à vous qui êtes, je crois, pas loin d'être tout seul au musée d'Orsay. qu'est-ce qu'il en est du peintre ? Est-ce que les critères évoqués à l'instant leur sont applicables ? Et est-ce que la représentation du poète, par ailleurs, au XIXe siècle, rend compte de ce mythe ?
Oui, si l'on pense au nombre croissant des artistes tout au long du XIXe siècle et au fait qu'il est de plus en plus difficile d'y faire carrière. La malédiction, elle est sociale. C'est d'abord la difficulté de vivre de sa peinture, de pas simplement d'ailleurs de la montrer, de la faire comprendre, mais d'en vivre. Raison pour laquelle d'ailleurs les artistes sans argent, sans fortune personnelle, se sont vus obligés de devenir illustrateurs, de travailler pour dans différents champs, de manière à survivre, exister. Et puis, c'est une manière, la malédiction, d'exalter la singularité. Jean-Luc Steinmetz a raison de le souligner. La malédiction, finalement, frappe ceux qui n'emploient pas les formes picturales ou les mots de la tribu. Hein, sont ceux qui ont fait rupture et qui tirent de cette incompréhension une manière de noblesse. Il y a une aristocratie de la malédiction, raison pour laquelle ce terme, il faut l'employer avec parcimonie et en essayant de comprendre ce qu'il désigne précisément. Mais on est entré au XIXe siècle dans l'ère de la singularité, comme le dirait Nathalie Hennick. Il s'agit de valoriser cette singularité, et la malédiction, la bohème, la séparation sociale, le refus des lois sociales, ça va jusqu'à une certaine forme d'érotisme dans le cas de Verlaine et Rimbaud. Leur affirmation de l'homosexualité, c'est aussi une façon de se singulariser. Bref, tout ça nous renvoie au domaine désormais très conflictuel des arts. Peinture comme littérature, et donc la malédiction est aussi un levier, une stratégie dans le cas des artistes. Et si l'on revient à la première édition des Poètes maudits de Verlaine, on s'aperçoit qu'il tient à ce qu'elle soit illustrée. Il y a d'ailleurs des échanges amusants, par exemple, avec Mallarmé. Mallarmé possédait le très beau portrait de Manet, qui est aujourd'hui à Orsay, dont il dit d'ailleurs à Verlaine que c'est un curieux tableautin. Alors que Verlaine, avec une grande lucidité, Verlaine était assez proche du milieu de la peinture, avait senti que ce tableau était historique, que Manet avait réussi à non seulement symboliser la poésie, mais une sorte de noblesse poétique au regard de la banalité littéraire du XIXe siècle. Donc Verlaine a besoin d'images. Il a besoin de la photo de Carjat, il a besoin pour Rimbaud, il a besoin du portrait de Manet pour Mallarmé. Bref, il sent que, d'une certaine manière, les images, ou les peintres et les littérateurs ont forgé cette notion de malédiction, parce que elle leur est utile, parce qu'elle désigne en eux une sorte d'aristocratie au regard du goût commun.
Une dignité, une malédiction qui peut parfois être aussi une malédiction pour ce qui est de la...
C'est le fameux sacre inversé cher à Starobinsky, hein, qui voyait dans le clown et le saltimbanque des images, des figures du poète. Mais ce qui est intéressant, c'est que Verlaine, comme Rimbaud, appartiennent à l'école Baudelaire. Hein, ils sont tombés dans les fleurs du mal au moment de l'adolescence, et ça les a brûlés à jamais. Et il est évident que celui qui, après Vigny, met en scène génialement, et au tout début des Fleurs du Mal, l'idée d'une malédiction, presque d'une vengeance divine, c'est Baudelaire. Et Baudelaire plane sur la génération qui vient, celle des Parnassiens, celle des Décadents. Verlaine dialogue en permanence avec Baudelaire, ne serait-ce que parallèlement, car Baudelaire a non seulement imposé l'idée d'une carrière en marge des institutions, bien qu'il ait souhaité être élu à l'Académie au début des années 1860, il reste un marginal, il reste marqué par le guignon, il reste marqué par la réputation d'être à la fois un mauvais coucheur et un personnage finalement peu fréquentable. Eh bien, Baudelaire a également, d'une certaine manière, tiré un certain profit, hein, de cette image qui va le poursuivre, et Verlaine le sait bien.
Baudelaire qui
est aussi Baudelaire, il est aussi celui qui a imposé une forme de réalisme, une forme de sexualité à la poésie française.
Et qui plane largement sur l'ouvrage de Jean-Luc Steinmetz, hein, qui vous conseille.
Il y a un mot qui devrait intervenir là.
Je vous en prie.
Qui est évident si on parle de malédiction. D'ailleurs, il faudrait creuser ça du point de vue de la religion même et du biblique. Mais c'est le mot saturnien, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui estiment qu'ils sont nés sous le chef de Saturne, comme disait Apollinaire. Et le premier livre de rend hommage à Baudelaire, qui lui-même avait écrit dans un épigraphe pour un livre condamné, « Jette ce livre saturnien, orgiaque et mélancolique ». Ça, c'est du Baudelaire, et les poèmes saturniens, c'est de Verlaine, et le signe de Saturne est évidemment astralement un signe mélancolique et dangereux.
C'est d'ailleurs très intéressant que vous parliez d'orgiaque et de mélancolie, parce que quand Verlaine travaille à parallèlement et qu'il en parle autour de lui à Rops, artiste baudelairien par excellence et qui aurait dû illustrer d'un frontispice la première édition de Parallèlement en 1889, eh bien à Le Pelletier, qui est un de ses amis, il dit Parallèlement, c'est un livre orgiaque sans trop de mélancolie. Et donc il joue sur les mots de Baudelaire, et on pourrait d'ailleurs, et les baudelairiens l'ont souvent fait, on pourrait trouver chez ceux qui ont lu Baudelaire les traces de ces lectures, et comment, à partir d'un mot, à partir d'une formule, ils se construisent au regard des Fleurs du Mal et des petits poèmes en prose.
Et c'est bien ce que fait Jean-Luc Steinmetz, d'ailleurs, dans son ouvrage. Il y a l'un des articles qui figure, hein, qui fait le lien, très beau texte qui fait le lien entre les phares et le sonnet des voyelles.
Oui. Ouais. Autre chose.
Dans l'ouvrage de Jean-Luc Steinmetz figure une foule de poètes, pas forcément maudits, donc Rimbaud, Verlaine, Laforgue, Ducasse, Nerval, Baudelaire, et puis vous y ajoutez celui-ci, hein, puisque ce qu'on entend sont les premières notes de Gaspard de la Nuit, de Ravel, au piano Martha Argerich, d'après évidemment le poème en prose d'Aloysius Bertrand. L'article que vous lui consacrez porte bien sûr sur Gaspard de la Nuit et revient sur le terme de poème en prose, hein, puisqu'on lui attribue souvent la paternité du poème en prose, lui qui ne l'a jamais revendiqué. Et dans cet article, vous insistez sur ces fantaisies donc de Gaspard de la Nuit, sans réelle postérité, mais avec un statut indiscutable, dites-vous, de prédécesseur pour ce qui est d'Aloysius Bertrand. Quel malentendu est-ce qu'il fallait corriger à propos de ce texte? D'ailleurs, l'ensemble du recueil est un recueil en fait de relecture de texte.
C'est un réajustement, c'est une suite de réajustements. Malheureusement, s'il y a un bénéfice d'avoir un certain âge, d'avoir parcouru beaucoup de textes et puis ensuite de les avoir comparés. Et pour Aloysius Bertrand, j'ai fait un travail assez considérable qui s'est d'abord exprimé dans le livre de poche, c'est-à-dire qu'il était très oublié, Bertrand, par rapport au spleen de Paris de Baudelaire. Et puis, à partir de ce moment-là, c'est un moment d'ailleurs où on a pu disposer du manuscrit enjolivé qui se trouve à la Bibliothèque nationale maintenant, eh bien, on a vu toute l'importance, une fois de plus très individuelle d'ailleurs, de Bertrand, et qui a été peu reconnu de son époque, mais qui a une influence secrète. Mais lorsque Baudelaire nous donne ce magnifique ensemble du spleen de Paris, ce n'est pas spécialement à Bertrand qu'il pense, n'est-ce pas ? C'est à Arsène Housset. Ça veut dire que la transmission de Bertrand ne s'est pas faite directement pour Baudelaire, par l'œuvre même. Et d'ailleurs, une des caractéristiques des textes de Bertrand, c'est qu'ils sont disposés en versets, n'est-ce pas ? Alors que les textes de Baudelaire sont en alinéa, en paragraphe. Donc, visuellement, beaucoup moins remarquable, se détachant beaucoup moins sur la page que les merveilleux poèmes en prose de Bertrand, qu'il considérait plutôt comme des ballades ou des nouveaux morceaux de prose, mais pour lesquels il n'a pas trouvé cette formulation. C'est une formulation, d'ailleurs, qui donne lieu à beaucoup de spéculations et d'interprétations. Et j'oserais dire que parmi les grands écrivains de poèmes en prose, eh bien, tous sont distincts. C'est-à-dire que, par exemple, les anecdotes que Mallarmé recueille, bel exemple de poète en prose aussi, n'ont que peu à voir avec le spleen de Paris, et que le spleen de Paris n'a que peu à voir avec les textes de Bertrand.
Donc ce serait de sorte tous de machines célibataires.
Oui, mais le mot de machine célibataire ne doit pas être utilisé là.
Tout à fait anachronique, je vous l'accorde.
Le contexte qui... ça peut pas très bien fonctionner pour désigner le poème en prose. Mais oui, nous sommes contraints dans ce domaine à une certaine exactitude, mais la définition est fort difficile du poème en prose. En tout cas, il y a sa brièveté, n'est-ce pas, et son éclat singulier, cette façon, et son caractère visuel parfois, quoique chez Baudelaire, ce sont surtout des anecdotes, presque des anecdotes morales, dans le sens où morale signifie qui s'intéresse aux mœurs, ce sont des anecdotes du temps présent. Bertrand, lui, comme disait Breton par la suite, Bertrand est surréaliste dans le passé. Ça, c'est un choix de sa part.
Alors, on parle d'Aloïsis Bertrand, mais c'est par Verlaine que vous ouvrez votre recueil, Jean-Luc Steinmetz, par un texte que vous titrez Verlaine par Verlaine. Verlaine qui s'évalue dans les Poètes Maudits, ou en tout cas dans la deuxième édition des Poètes Maudits, en utilisant son anagramme. Vous l'avez cité tout à l'heure, Pauvre Lélian, qui est l'anagramme évidemment de Paul Verlaine. Et
oui,
puis qui se...
Il ne porte pas d'ailleurs d'accent, sans doute. Oui.
Pauvre le lion, peut-être, hein, ce qui donne encore autre chose, et qui s'analyse également, qui s'éprouve d'une certaine façon dans le petit fascicule Homme d'aujourd'hui, et puis très souvent au détour d'un vers. Comment est-ce que Lélian, ou Lélian sans accent, analyse-t-il l'œuvre de Verlaine, hein ? Ou autrement dit, comment est-ce que Verlaine veut se présenter au lecteur ?
Eh bien, il y a quelque chose qui se passe dans la vie de Verlaine, et ça tourne autour de Rimbaud, et c'est le moment crucial, n'est-ce pas, où il tire sur Rimbaud, et il veut tirer sur Rimbaud, il est mis en prison. Et en prison, il découvre, ou il redécouvre, la foi. Il redécouvre le catholicisme. Donc à partir de ce moment, et il écrit Sagesse, et cellulairement. Mais à partir de ce moment-là, eh bien, il sera parfaitement conscient de la faute, du péché. C'est ce qui d'ailleurs trouble beaucoup Claudel, qui manifeste toute sa sympathie pour ce grand pécheur. Et malheureusement pour Verlaine, ou heureusement, ce n'est pas un pécheur repenti. Donc il y a constamment, et dans sa vie et dans son écriture, si étroitement jointe, il y a constamment cette part de l'érotisme et de l'érotisme qui se sent plus ou moins coupable, et puis cette réalité de la foi qu'il n'abandonnera plus jusqu'à la fin de sa vie. Ce problème de la faute, du péché, du vice, il est constamment aussi dans une saison en enfer. C'est-à-dire l'importance de ce drame de Bruxelles. Donc, quand Verlaine parle à son propos dans des préfaces ou dans des textes qui finalement le concernent de son œuvre, eh bien, il fait toujours la part entre ce, il s'efforce toujours de faire la part entre ce qui serait presque coupable et puis ce qui serait dans la droite ligne d'un pécheur plus ou moins repenti. Il y a un ton, quand Verlaine parle de lui de cette façon-là, il y a un ton confessionnaire, n'est-ce pas ? Il fait des confessions. Hein ? Et ces confessions, c'est pas celles de Saint-Augustin, mais c'est, elles sont là dans sa tête, en tant que il sait très bien qu'il y a une faute, qu'il y a un péché originel. Et en ce sens, il rejoint Baudelaire, qu'on ne saurait comprendre si on ne voyait l'importance du mal et du péché originel dans, non seulement dans l'histoire du mal, mais dans toute son œuvre. Là, cela nous ferait remonter à Joseph de Maistre. Et vous voyez, si on cherchait très bien, mais ce n'est pas le propos de mon livre, à ce moment-là, on retrouverait quelque chose de la malédiction. Et surtout, de la grâce.
Alors vous dites, Verlaine, qu'il n'est pas repenti. Peut-être quand même une forme d'auto-indulgence. Vous écrivez, Jean-Luc Steinmetz, vous écrivez dans ce texte que Verlaine n'a jamais eu de plus grand souci que celui de se faire plaindre. Et le dernier paragraphe, les dernières phrases de votre essai, vous écrivez « On ne lui a guère pardonné d'avoir fait servir son écriture à des fins affectives, comme tous ceux qui, prenant le lecteur à témoin, en usent pour trouver enfin l'identité qui leur manque. Sa poésie nullement résolutoire s'est complue à traîner un mal vivable, pas assez douloureux toutefois, comme celui de Van Gogh ou d'Artaud, pour illuminer. »
Oui, ce sont peut-être les limites de Verlaine, mais c'est pour ça que tout le monde aime Verlaine et que moins de gens aiment Artaud. On évoquait les peintres tout à l'heure. Eh bien, je pensais, quand Stéphane Guégan parlait, je pensais évidemment à Artaud, à Van Gogh et puis à Toulouse-Lautrec. Hein.
Et à Gauguin. Lorsque Paul Verlaine écrit, par exemple, dans Parallèlement, dont on va parler tout de suite, il écrit ce poème titré « À la manière de Paul Verlaine », dans lequel il écrit « C'est à cause du clair de la lune que j'assume ce masque nocturne et de Saturne penchant son urne et de ses lunes l'une après l'autre. Des romans sans parole ont, d'un accord discord, ensemble et frais, agacé ce cœur fadasse exprès. Oh, le son, le frisson qu'elles ont !» Il n'est pas que vous n'ayez fait grâce à quelqu'un qui vous jetait l'offense. Or, moi, je pardonne à mon enfance. Revenant fardé et non sans grâce, je pardonne à ce mensonge-là, en faveur en somme du plaisir, très banal, drôlement qu'un loisir, douloureux un peu minocula.
Oui, c'est difficile de mieux dire, de mieux parler que Verlaine, et en même temps, évidemment, comme tout poète, comme tout écrivain, il y a là un mentir vrai, n'est-ce pas ? Ça fait partie de la recherche de l'identité plus ou moins frénétique qui se dessine chez le moindre auteur. Mais ici, nous ne sommes pas avec les moindres auteurs. Et ils ont besoin de se connaître, n'est-ce pas ? Ce n'est pas le gnotiséoton de Socrate, mais tout se pressente à quel point les limbes de l'inconscient.
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farid.
Et toujours avec Jean-Luc Steinmetz et Stéphane Guégan, de Rimbaud retour à Verlaine et de Verlaine dans l'œil de Bonnard. L'heure exquise, hein, donc ce poème de Verlaine mis en musique par Reynaldo Hahn et interprété par Marie-Nicole Lemieux, là, celui qu'on vient d'entendre. Reynaldo Hahn qui publie donc ses chansons grises en 1893, hein, c'est-à-dire encore du vivant de Verlaine, c'est-à-dire entre les deux éditions de Parallèlement, hein, qui est ce septième recueil que le poète lui-même décrit, hein, vous l'avez dit Stéphane Guégan, comme un livre orgiaque sans trop de mélancolie, qui est un recueil mal connu, moins lu en tout cas, tardif, qui rassemble, qui ordonne des poèmes issus de périodes différentes. Est-ce que vous diriez que c'est un recueil du pauvre Lélian, Jean-Luc Steinmetz ?
Ah, écoutez, moi je laisse la parole à Stéphane Guégan, qui connaît mieux Verlaine.
Alors vous évoquez parallèlement dans l'essai que vous consacrez à Verlaine, vous évoquez parallèlement précisément pour souligner la division, ce qui coupe en deux Verlaine. Verlaine comme poète déchiré.
Oui, mais enfin, poète déchiré, comme je vous le dis, comme je vous le disais tout à l'heure, quand il écrit Sagesse, il écrit en même temps Cellulairement, qui n'a été publié que très très tard, n'est-ce pas ? Il a été publié ces dernières années, là, parce qu'on a retrouvé l'ensemble du manuscrit. Alors, ces deux parts de lui, il les fait jouer presque constamment, et sans aboutir à une égalité d'ailleurs, une unité. Il est plutôt dans cette tension, dans cette irrégularité, n'est-ce pas ? C'est un poète irrégulier, et d'ailleurs, sa prosodie est irrégulière aussi, n'est-ce pas ? C'est quelqu'un qui joue magnifiquement de l'impair, et quelqu'un qui trouve les formes, beaucoup moins Rimbaud, bien sûr, mais enfin...
Vous diriez, Jean-Luc Steinmetz, vous diriez tension, alors, entre... le corps et le cœur, j'imagine, plutôt parce que le terme de parallèlement ne fait pas nécessairement penser à tension. On peut le voir
autrement. Oui, ben ça c'est sa façon de désigner les choses, n'est-ce pas ? Mais je pense qu'il y a, oui, peut-être une osmose entre les deux. Mais quand on observe la plupart des poètes que j'ai regardés dans mon livre, on voit bien que la contradiction est toujours là et que c'est à partir de cette contradiction qu'ils trouvent leur formule, qu'ils trouvent leur existence, enfin, ou leur essence.
Alors ce recueil-là, parallèlement, hein, ce sont 45 poèmes, alors selon l'édition, puisque donc il y a une première édition, et puis quelques années plus tard une seconde, 45 poèmes, des vers crus pour beaucoup, lubriques parfois, érotiques pour l'essentiel, des poèmes saphiques, des poèmes de bordel, quelques poèmes de cellules, hein, de prison, quelques piques terribles à l'encontre de Mathilde, son ex-épouse, un poème extraordinaire qui s'appelle « Main », hein, qui est un poème d'assassin, et puis Rimbaud, pas loin, toujours un recueil qu'il qualifie d'enfer de son œuvre de chrétien. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre ce titre de parallèlement Stéphane Guégan ?
Oui.
Deux
oui,
voix.
Oui, absolument, puisque, comme l'aurait dit Baudelaire, il est homo duplex. Hein, nous, les catholiques ont cet avantage de penser la dualité de l'homme, de ne pas s'enfermer dans... son imperfection, de ne pas s'enfermer dans la conscience du mal, mais également d'en tirer une forme de jouissance, dans la mesure où, parallèlement, on le dirait en termes modernes, dépénalise la sexualité. La sexualité, pour ce poète catholique, n'est pas de l'ordre du mal. Elle permet, finalement, d'exulter, et dans cette exultation, peut-être de vivre sur le plan imaginaire le mal qui est en nous, le goût de la mort, le goût du crime, le goût de la perversion, de la perversité. Donc c'est un recueil formidable de ce point de vue-là, puisque vous l'avez dit, c'est très vert, c'est luxurieux, c'est licencieux,
c'est festif parfois.
C'est festif. c'est un livre effectivement sans mélancolie, en dehors de celle qui consiste, et c'est fréquent chez Verlaine, de se retourner sur lui-même, sur sa vie. Sa vie, c'est Mathilde, effectivement, qu'il a épousée alors qu'il avait 25 ans. C'est bien sûr la saison rimbaldienne entre 71 et 75, et puis c'est aussi sa façon de s'inscrire dans une grande tradition qui vient des poètes grecs et latins, c'est-à-dire la littérature érotique, celle qui nous rappelle que l'existence est brève et qu'il faut en jouir. C'est aussi un livre où toutes les libidos s'expriment. La dualité de Verlaine, c'est aussi sa bisexualité. Il a autant aimé les hommes que les femmes, et jusqu'au bout. Et en disciple avoué de Baudelaire, il est celui aussi qui avoue non seulement la sexualité comme fondamentale à l'homme, mais ses sexualités. Et ce qui me semble assez caractéristique de parallèlement, c'est la reprise au début du volume d'une série de poésies qu'il avait confiées à Poulet Malassi, l'éditeur des Fleurs du Mal, dans les années 1860. Ce sont les fameuses Amies IES. Hein, ce sont des adolescentes qui jouent, si je puis dire, à la grande Sappho. Alors c'est particulièrement délicieux et scabreux. Et ce premier recueil, empêché, si j'ose dire, il l'a publié sous le manteau en Belgique, et il le reprend
sous pseudo, hein,
sous pseudo, 67, exactement. Oui. Voilà, j'imagine que le milieu parisien devait savoir. Poulet Malassi, d'ailleurs, s'était fait une spécialité en dehors des Fleurs du Mal de publier la poésie érotique, lubrique, avec ou pas l'accord d'ailleurs des écrivains. C'est par exemple le cas de Gautier. Et les Amis ouvrent parallèlement, comme si, sous la Troisième République, nous sommes en 1889, sous la Troisième République, désormais, ce lesbianisme délicat, drôle d'ailleurs, et froufroutant, était désormais licite. On s'étonne d'ailleurs, je m'étonne moi-même dans le petit livret qui accompagne cette réédition, qu'il n'ait pas subi les objections, pour parler comme Verlaine, que ce texte aurait dû faire surgir. Pas de censure. Pas de censure en 89, pas de censure en 94, pas de censure quand Bonnard illustre et publie, donc republie le livre en 1900, alors que c'est sans doute l'un des recueils les plus licencieux par le fond et la forme de la grande poésie française.
Alors justement, puisque vous évoquez Bonnard, Stéphane Guégan, c'est donc c'est le marchand d'art, hein, Vollard, qui va le faire reparaître en 1900, donc 4 ans après la mort de Verlaine, va le faire reparaître, réédité, mais illustré. Et c'est à Bonnard qu'il va s'adresser, ce qui peut poser question, ça ne va pas de soi, que d'aller chercher Bonnard pour illustrer ses poèmes de Verlaine, ces poèmes-là en particulier. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce choix-là? Est-ce qu'on se trompe complètement en se disant que peut-être le choisir, c'était une façon aussi, peut-être, hein, de calmer un peu, j'allais dire, la verdeur de Verlaine, hein, par...
Du texte verlainien.
Oui.
Oui, d'abord, il faut rappeler que ça n'a pas été le premier choix de Vollard. Vollard hésite, il confie d'abord, nous sommes au milieu des années 1890, plus exactement au lendemain de la mort de Verlaine. Vollard, qui est un marchand d'art très lettré et qui va réinventer le livre d'art, Vollard a pensé à Lucien Pissarro, l'un des fils de Camille. Et puis, il va se tourner vers un disciple de Whistler. Alors ça, c'est très intéressant parce que Whistler passait pour être un peintre verlainien. Si l'on se rapporte à Harbour, le roman de Huysmans en 1884, où au volume certain, qui est le deuxième grand livre de critique d'art de Huysmans, le parallèle entre Whistler et Verlaine est établi. Ces deux artistes ont en commun un don du chuchotement, du fantomatique, de la susurration, quelque chose en tout cas qui donne aux formes une sorte de mystère, le mystère de leur propre disparition. Et puis, pour des raisons qu'on ignore, il se tourne vers Bonnard. Et là, l'idée est géniale, parce que Bonnard est de tous les peintres qui viennent après Manet, après la génération de Manet et même de Whistler, il est sans doute le plus porté sur l'éros. Il l'a prouvé dans sa vie avec la fameuse Marthe. C'est d'ailleurs Marthe, sa femme, que l'on voit sous de multiples angles dans parallèlement. Ses photographies érotiques sont très connues. Il a un côté Pierre-Louis. C'est un peu le Pierre-Louis du mouvement en habit. Alors que le mouvement en habit, en dehors de Roussel et de Vuillard, n'est pas nécessairement très érotique. Pensez à Maurice Denis. Bonnard est véritablement, par sa vie, par ses goûts, par ses audaces, le plus propre, le plus prêt aussi à entreprendre l'illustration. Et il va le faire dans un esprit que je compare à celui de mon cher Lautrec. Jean-Luc Steinmetz a raison de penser à Lautrec quand on pense à cet imaginaire des marges. Eh bien, son livre fonctionne sur le mode de la fusion. Il n'y a pas d'un côté les planches et de l'autre côté le texte. Non, il y a une sorte d'embrasement commun. Et autre idée formidable et qui fait écho non seulement au célèbre quatrain de Baudelaire sur l'Au-delà de Valence de Manet, hein, le charme inattendu d'un bijou rose et noir, il décide de tirer les gravures en rose. Donc c'est un livre noir et rose. Et quand on relit les poèmes qu'il compose parallèlement, il en est un qui énonce le vers suivant. C'est au fond Verlaine qui nous parle d'ailleurs. La poésie de Verlaine est une poésie du dialogue entre l'auteur et le récepteur. Ah, ton corps noir et rose. Bonnard a su imposer le rose à son éditeur, au marchand Vollard, et il a su en faire la couleur. Il le dira sous l'occupation allemande, alors qu'il est interviewé. Pour lui, le rose, c'est véritablement la couleur de cette atmosphère. Et le mot atmosphère est très intéressant, cette atmosphère que Verlaine a su imprimer donc au mot.
Alors, il y a le rose des dessins, évidemment, des nus pour l'essentiel. Il y a aussi le choix du garamond, hein, de la typographie. Vous parliez de quelque chose de froufroutant tout à l'heure. Il y a une sorte d'élégance un peu froufroutante, justement, dans le choix de la typo. Et donc, ces dessins qui vont littéralement envahir les vers de Verlaine vont évoquer alors la cellule, les cellules de Verlaine. Alors, quelques arbres, ça et là, quelques animaux, c'est Bonnard quand même. Mais aussi des scènes de café, de rue, des portraits du poète de Verlaine, oui. Au lit, dans la rue, mais aussi bien sûr des chevelures, beaucoup de chevelures, des nus allongés dans toutes sortes de positions, des nus assis, des nus accouplés. Et voici ce que dit Jean-Claire de Pierre Bonnard. On est en 2015 dans la rétrospective organisée par le musée d'Orsay, ça tombe bien, au micro d'Isabelle Kahn pour France Culture.
Ma première rencontre véritable avec Bonnard, c'était 1966. Bon, 66, Bonnard, oui, post-impressionniste, c'était gentil, le bonheur, tout ça. Bon, et puis au fur et à mesure que le temps passe, on se rend compte que c'est pas du tout ça. C'est une peinture extrêmement complexe, c'est une peinture profondément mélancolique, c'est une peinture profondément éprouvante et émouvante, et peut-être qui, aujourd'hui, 50 ans après, se révèle comme une des plus grandes œuvres de l'art moderne, dont on commence simplement maintenant à comprendre l'extraordinaire, audace et singularité en même temps. Si on voulait faire de la mauvaise littérature, on pourrait dire un jardin d'Éden où les animaux et les humains vivent ensemble. Mais en même temps, on voit très bien que c'est un jardin d'Éden qui est perpétuellement menacé, qui est perpétuellement piégé, si je puis dire, parce que lorsque la femme en particulier prend son bain, passe son temps à se plonger dans la baignoire, son corps subit de très étranges métamorphoses qui montrent sa vulnérabilité, presque parfois sa morbidité. La chair n'est jamais, contrairement à ce qu'on peut croire, jamais tout à fait glorieuse chez Bonnard. En particulier quand il traite du nu féminin. Ça n'est jamais une chair illuminée par le soleil, mais rarement, mais beaucoup plus souvent une chair qui apparaît comme une ombre fantomatique, soit dissimulée par l'eau de la baignoire, soit à moitié cachée par un paravent. Et donc, il y a un jeu là du voilement et du dévoilement, de la dissimulation et de la révélation. C'est la parabole de Freud du Fortenda chez le petit enfant. C'est-à-dire, on désire quelque chose dans la mesure où cette chose apparaît et disparaît. On vous la donne et on vous la retire. Et bien, cette espèce de jeu infantile de ce qui vous est donné et retiré en même temps, le Fortenda freudien, on le retrouve dans les dispositifs plastiques de Bonnard où il donne les choses pour les retirer. Elle est sur le point de vous être retirée, mais en même temps, elle va revenir.
Alors là, en revanche, Stéphane Guégan, par rapport à ce que Jean-Claire vient de laisser entendre, ces nus-là sont extrêmement offerts. Qu'est-ce que vous diriez de ces nus, en tout cas de la compréhension du texte qu'ils révèlent ?
Ils sont offerts, mais ils sont également en partie dissimulés. Ils appellent le dévoilement, un peu comme Olympia l'appelle en 1865, le tableau le plus baudérien de Manet. Sans doute, pour des raisons qui tiennent à la censure, Bonnard ne peut pas, dans les marges du texte, aller jusqu'au bout de ce qu'il suggère, mais il retient cette suggestion. Bonnard est grand lecteur jusqu'au bout de Mallarmé, c'était véritablement son dieu en littérature, et il sait comment donner au corps féminin l'attrait du fruit défendu. Donc Jean-Claire a raison de souligner cette stratégie qui fait que les corps sont là et en même temps pas nécessairement disponibles, et tout ça renvoie à l'inspiration même de parallèlement, qui est une inspiration qui tient non pas à la mise en valeur, la simple mise en valeur fétichiste du corps féminin, mais à la mise en œuvre des ébats, de l'acte, Il s'agit soit de le montrer en partie voilé, soit de le suggérer. Nous sommes véritablement dans une poésie qui ne recule plus devant la dimension physique de l'amour, et on ne peut plus le faire depuis Baudelaire. Verlaine le sait très bien, et Rimbaud le lui a rappelé quand par accident il se serait assagi. Eh bien, le corps dit cela. Le corps dit cela. Là, je crois qu'il y a peut-être dans mon cœur, mise à nu de Baudelaire, une phrase, mais je me trompe peut-être, hein, qui établit un parallèle justement entre l'amour et le crime. L'amour, l'étreinte, comme une sorte de crime imaginaire. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, chez les poètes catholiques, c'est qu'ils n'innocentent pas l'acte sexuel. Ils en exaltent le plaisir, la jouissance, mais ils nous rappellent que cette jouissance, elle se produit, elle se vit dans la conscience du mal. Jean-Luc Steinmetz l'a souligné tout à l'heure. Verlaine, c'est ce catholique qui n'oublie pas ce que l'Église peut dire de la sexualité, mais qui, parce que finalement c'est une part fondamentale de lui et de l'art moderne, eh bien, ne peut s'en priver et ne peut en priver la littérature. Et je crois que Vollard a eu un coup de génie en associant Verlaine et Bonnard. Il ne pouvait pas mieux faire, d'une certaine manière. Si Lautrec n'avait pas été en 1900 dans un état dans l'état où il se trouvait, aurait peut-être pu finalement faire l'affaire. Mais Bonnard apporte en plus au texte cette culture rocaille, cette culture du XVIIIe siècle, ce libertinage à la fois délicat, délicieux et pervers, qui est aussi une part fondamentale de l'esthétique verlainienne depuis la Fête Galante.
Mais qui, pardonnez-moi Stéphane Guégan, mais qui s'en tient, pour ce qui est des étreintes, qui s'en tient à des scènes saphiques, parce que oui, par ailleurs, Verlaine, lui, ne se prive pas, il y a un cycle complet dans Parallèlement qui est titré Les Lunes, qui est assez clair dans ces images, et Bonnard n'illustre des étreintes que par des étreintes de femmes.
Oui, vous avez raison, je le souligne dans mon petit texte. Le temps de l'homosexualité masculine dans l'iconographie, en tout cas de l'art moderne, n'est pas tout à fait venu. Elle appartient encore aux marges. Bonnard transpose dans le registre de la femme ce que Verlaine suggère de ses anciens. De ses anciennes amours rimbaldiennes, et les mots sont crus, vous l'avez dit, drus, et d'ailleurs nous renvoie aussi à une des techniques de la littérature érotique, qui est celle de la métaphore, qui est celle de l'argot, qui est celle du demi-mot. Il a recours à tout ça, Verlaine. Il connaît l'argot puisque il a parfois des aventures avec des voyous, hein, des petites crasses, comme on le disait de Rimbaud.
Oui.
Il aime d'ailleurs se frotter à cette sexualité plébéienne, cette sexualité donc doublement interdite d'une certaine manière.
Stéphane Guégan, pardonnez-moi, et là c'est déjà la fin de l'émission. Jean-Luc Steinmetz, Stéphane Guégan, merci à tous les deux. Vous pouvez réécouter, partager cette émission sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Aujourd'hui à la technique Clément Daté, à la préparation Thierry Beauchamp et à la réalisation Doria Zedine. Et je signale, puisque c'est la saison des prix, que l'Académie française a décerné les 62 siens, parmi lesquels, puisqu'on en parlait justement, le prix Paul Verlaine, attribué à Marie de Quatre-Barbes pour son excellent Voguer aux éditions POL. Bonne lecture donc. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain, même heure, même endroit. Bon après-midi à toutes et à tous.